Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'être là. Alors, vous le savez sans doute, aujourd'hui se sont ouverts les 38e journées du patrimoine et ça va durer 2 jours, donc encore cet après-midi et demain. C'est l'occasion, bien sûr, de visiter des monuments ou des musées ou des jardins gratuitement et de découvrir des lieux magnifiques ou insolites ou les deux à la fois, comme on le fait d'ailleurs chaque semaine ici dans cette émission Samedi en France. Alors, nous avons déniché aujourd'hui avec Gavins Clémenté-Ruiz du Guide du Routard 4 lieux méconnus, en tout cas oubliés des sentiers touristiques. En voici la démonstration avec le programme du jour. Dans un instant, le musée de la magie, c'est à Blois, dans la ville du célèbre Robert Houdin, que vous ne connaissez peut-être pas. C'est le plus grand magicien du 19e siècle quand même. Hein. Ensuite, direction Narbo-Marcius, première capitale romaine en Gaule. Aujourd'hui, c'est Narbonne, hein, où nous découvrirons en détail ce que fut l'occupation romaine dans cette ville grâce au musée Narbovia, c'est son nom. Ensuite, nous irons dans le Pas-de-Calais. On vous fera découvrir le plus bel exemple architectural du patrimoine des bassins miniers. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre tête, ces bâtiments. Alors, les bassins miniers et les corons, bien sûr. Ça s'appelle la cité des électriciens. Mais pourquoi? On vous le dira. Et enfin, on vous invitera à une expérience de plein air comme chaque samedi. Alors, cette fois, ça sera sur l'île de Bas pour la visite d'un jardin extraordinaire, comme le dit la chanson, en pleine Bretagne, et cela grâce au Gulf Stream. Pour commencer cette émission, Gavis, vous nous emmenez à Blois. Alors, quand on parle de cette ville dans le Loir-et-Cher, si je ne me trompe pas, on pense tout de suite au château, le château de Blois. Il faut savoir que c'était l'un des châteaux préférés de Louis XIII. Vous en avez peut-être déjà entendu, je ne sais pas. Oui, mais là, on va vous emmener, madame, monsieur, en face, s'il vous plaît, vous traversez. Parce qu'en face, il y a le musée de la magie. Est-ce qu'il y a une raison particulière de faire un musée de la magie dans cette ville-là?
Eh bien oui, William, parce que c'est la ville natale, Blois, de Robert Houdin. Mmh. Robert Houdin, c'était le roi des magiciens.
Et qui c'est cet homme-là?
Eh bien, Robert Houdin, c'est un personnage assez surprenant. Il a plusieurs casquettes. Déjà, il est né le 7 décembre 1805, à Blois donc. À la base, il est fou de mécanique, mais... Pour son père, ce n'était pas assez sérieux. Son père, il était horloger et il va diriger son fils vers des études de notaire.
Bah, je ne sais pas, moi, mécanique, horloger, moi, j'aurais dit que c'était plutôt pas mal.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'il avait des
idées derrière la tête, en
c'est
fait.
C'est ça, petit, exactement. Mmh. Et Robert Houdin, toute sa vie, il va vouloir se passionner pour autre chose. Et ce qu'il aime, c'est la mécanique, c'est l'horlogerie aussi, comme papa. Mmh. Et à 23 ans, il va finalement se consacrer à sa passion. Et c'est là que tout commence véritablement.
Ça veut dire qu'à 23 ans, il devient magicien. Ou quelque chose comme ça?
Eh bien, pas encore. Il n'arrête pas d'inventer. Par exemple, il se passionne pour l'électricité, qui vient juste de naître, qui est toute naissante. Il essaie aussi de se simplifier la vie. Alors, il crée des automates. On pourrait presque dire qu'il a inventé, pour l'époque, la domotique.
La domotique, mais automates, c'est avec des automates. Les automates qui lui rendent service dans la vie quotidienne,
c'est ça ? Exactement, c'est ça. Hein. C'est un peu lui qui a inventé tout ce qu'on a aujourd'hui dans la maison. Hein. On allume la lumière avec un petit bouton qui allume 15 lumières autour de soi.
Mais c'est dingue, parce qu'on est au milieu du 19e.
Là. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est chouette avec ce personnage qui est vraiment, comme je le disais, multicasquette. Mmh. Il a aussi inventé, par exemple, le plastron électrique des escrimeurs. Vous savez, quand
Oui,
c'est lui aussi.
J'espère qu'il a fait breveter, non ?
J'ai des doutes, mais bon,
on verra, c'est dommage, parce qu'il garderait des sous.
Il adore
sa famille, quoi.
Exactement. Et bref, on voit que Robert Houdin, dans sa vie, ce qu'il aime, c'est inventer.
Oui, mais à quel moment il vient à la magie, là? Parce qu'il est encore très jeune.
Eh ben, c'est grâce à la mécanique. Il va rencontrer plein de scientifiques, il va rencontrer des créateurs. Mm-hmm. Et parmi tous ces personnalités, il va aussi rencontrer des magiciens. On dit des escamoteurs à l'époque. J'aime bien le terme escamoteur.
Ah bon, il n'y avait pas le mot magicien, tiens.
Non, pas encore. Et il va étudier dans le dictionnaire encyclopédique des amusements des sciences. J'ai noté.
Il y a des gens qui avaient écrit ça.
Exactement. Et on voit encore le livre aujourd'hui. On peut le consulter. C'est un vieux grimoire. Hein. Et c'est là-dedans qu'il va apprendre tous ses tours de magie. Il va les mettre en pratique. Il va aller à Paris. Il va créer son théâtre proche du Palais Royal. Il va organisait ce qu'on appelle à l'époque des soirées fantastiques. Mmh. Il y a beaucoup de fantaisie, il y a plein de poésie, puis il y a aussi beaucoup d'humour, parce que Robert Houdin était très amusant.
Mais il est incroyable, ce garçon, parce qu'il est très jeune et il est visiblement assez ambitieux et très malin, je trouve. Hein. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'il met à profit son savoir scientifique, puisqu'il a étudié, là, au service de la magie. Alors, on va en savoir un peu plus avec Yvan Boukev, qui est chargé des collections à la Maison de la Magie à Blois. Bonjour, Monsieur Boukev.
Bonjour.
Alors, dans votre musée, est-ce qu'on raconte la vie de Robert Houdin, mais de manière chronologique ?
Alors, pas vraiment chronologique. La scénographie présente les grandes thématiques de la vie de Jean-Eugène Robert Houdin, certaines que vous venez d'évoquer, sur un étage complet. Dans le vestibule, on évoque l'entourage de Robert Houdin et son lien avec Blois, en particulier les horlogers. Et dans la grande salle sont présentés son travail de mécanicien, les productions d'automates, d'horloges, ses expériences scientifiques et ses inventions. Vous parliez de brevets, effectivement, il en dépose.
Ah, quand même.
Et enfin, mais pas celui pour le plastron électrique, parce que malheureusement, il sera utilisé que très tardivement, bien après la mort de Robert Houdin. Et enfin, on présente la carrière de magicien professionnel, une carrière qui est parfois complexe d'identifier justement sur le plan chronologique, parce que Robert Houdin a un peu romancé le récit de sa vie dans ses mémoires, et la chronologie qu'il donne est une chronologie simplifiée. Il a tendance à dire que c'est en découvrant le dictionnaire des amusements et des sciences qu'il apprend la magie.
Oui, oui.
Or, il est probable qu'il a rencontré tout au long de sa vie différents magiciens et qu'il s'y est intéressé beaucoup plus tôt qu'il ne le dit.
Voilà. D'accord. Mais le musée est grand comment ?
Alors, la Maison de la Magie s'étend sur 2000 mètres carrés, 5 niveaux.
Ah oui, ça va, il y a de la place.
Oui, c'est à la fois un théâtre de magie et un musée. Dans lequel il y a plusieurs espaces d'exposition permanente, un étage d'exposition temporaire, un espace avec des illusions d'optique et enfin plusieurs espaces pour la magie vivante. Alors il y a des numéros de magie de proximité, le close-up comme on dit en anglais, ou les spectacles avec les grandes illusions sur scène.
Il y a des spectacles, d'accord. Et ça, les spectacles, c'est assez souvent dans
Tous les jours.
C'est tous les jours.
Alors, tous les jours, il y a 3 à 4 spectacles dans le théâtre, plus les petits spectacles de magie de proximité.
Monsieur Boukev, moi j'ai le souvenir d'un film américain qui devait s'appeler The Great Houdini, ou in French, le Grand Houdini, avec Tony Curtis dans le rôle principal, mais j'avais l'impression qu'il avait fait une carrière à l'étranger. C'est vrai ou c'est faux, ça ?
Alors, il ne faut pas confondre deux personnages. Donc il y a Jean-Eugène Robert Houdin, l'horloger mécanicien, inventeur et magicien, qui est connu, lui, pour avoir révolutionné la mise en scène au milieu du 19e siècle des spectacles de magie. Alors, il donnait ses représentations en costume à queue de pie sur une scène spécialement aménagée avec des tables et des objets truqués. Et surtout, sa spécialité, c'était d'intégrer des automates dans ses numéros.
D'accord.
Et il ne faut pas confondre avec Houdini, qui là est un magicien, qui a pris son nom de scène en mémoire de Robert Houdin, puisque Robert Houdin était aussi écrivain.
Voilà la confusion,
voilà. Et Houdini a pris son nom de scène parce qu'il a découvert la magie en lisant les livres de Robert Houdin. Et lui, il faisait des numéros assez différents qui étaient basés sur sa condition physique exceptionnelle.
C'était un athlète.
Notamment des tours d'évasion.
Oui, des tours d'évasion. Dans un cube rempli d'eau.
Le film avec Tony Curtis raconte ça, la vie d'Houdini.
Ah d'accord, très bien. Est-ce que cet artiste, Robert Houdin, a été reconnu comme il le méritait en son temps ou pas ?
Ouais, je pense que oui, puisque le gouvernement français, en 1856, l'a même envoyé en Algérie pour mettre fin aux révoltes. Là-bas, des marabouts qui utilisaient des tours de magie pour influencer les tribus locales et les pousser à la révolte. Eh bien, le gouvernement français imaginait que faire venir Robert Houdin pour montrer qu'il était plus grand marabout du monde permettrait de lutter contre cette influence.
Ah oui, c'est incroyable, ça.
Oui, et en effet, ça a fonctionné.
Le gouvernement français qui missionne un magicien pour dire « Ah non, regardez, nous, le colonisateur, on est vachement fort. On a des marabouts plus forts que le vôtre. » Ah ouais, c'est malin. Très bien. Parfait, on en sait un peu plus. Eh bien, j'espère que vous aurez de nouveaux visiteurs, M. Boukev, pour ces journées du patrimoine, entre autres, bien sûr. Merci beaucoup.
Merci à vous aussi.
Gavis, c'est dans la rotonde du musée qu'on va revivre toute cette histoire, parce qu'il y a une nouvelle attraction, paraît-il.
Oui, ça s'appelle le Temps des Prestiges. Vous pourrez en profiter notamment ce week-end. Et puis, on va découvrir toute l'histoire de la magie, de l'antiquité à l'époque moderne. Ouais, on est en immersion, comme on dit. C'est le terme technique en ce moment, très à la mode. Il y a des sons, il y a des couleurs.
On fait tout en immersion.
Tout en immersion maintenant, même de la radio. C'est un spectacle, j'ai envie de dire, magique, si vous me le permettez, William.
Très bien, avec des sons et des couleurs. Aujourd'hui et demain, pour les journées du patrimoine, des choses particulières?
Alors oui, demain, vous pourrez faire une petite visite guidée avec des cartes anciennes, comme autrefois. Elles vous diront la bonne aventure.
Pendant que vous visitez.
Exactement.
Mais elles sont guides également.
Exactement, et vous pourrez visiter en même temps le musée.
Ok, ça coûte combien tout ça?
C'est gratuit aujourd'hui et demain pour les journées du patrimoine, c'est ça qui est sympa. Renseignez-vous quand même pour savoir si c'est pas complet avant d'y aller. Sinon, en temps normal, c'est 11 euros pour les adultes, 8,50 entre 6 et 17 ans. Il y a des billets groupés aussi avec le Château Royal juste en face. Et puis, vous pourrez apprécier le week-end en septembre et tous les jours des vacances de la Toussaint.
Comment le faire chaque fois dans cette émission? Donc, samedi en France sur Europe 1 à 15h, tous les samedis. On vous parle aussi de ce que vous pouvez trouver autour du site dont vient de vous parler Gavis. Par exemple, les produits locaux. Nous sommes dans le Loir-et-Cher. Qu'est-ce qu'on peut trouver?
Je vais vous emmener à la Bourriche aux Appétits. C'est chez Julien Quesnot à Vineuil. On est à 4 km de Blois. Et là, c'est une affaire familiale. Vous pourrez acheter des rillettes d'écrevisse, des quenelles de brochet, du sang de rose herbe. Bref, vous pourrez ramener un tout petit peu de Loire à la maison après cette petite escapade au musée de la magie.
Vous retrouvez toutes ces adresses et toutes ces infos sur les réseaux sociaux, bien sûr. Dans un instant, avec Gavins Clément-Hervis, Centurion Routard, on va vous emmener à Narbonne. Pourquoi là? Parce qu'il y a au moins deux bonnes raisons. D'abord, la première capitale romaine de la Gaule. Et puis ensuite, vous découvrirez là-bas un musée qui vous dit tout sur cette époque, mais pas seulement. À tout de suite.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
On poursuit notre découverte du patrimoine français, puisque c'est aujourd'hui les journées du patrimoine. Vous le savez, bien sûr, c'est une innovation qui a été faite exclusivement pour cette émission. Une innovation qui date déjà depuis une dizaine d'années, mais enfin bon. Des lieux souvent difficiles d'accès, vous connaissez ça, sont ouverts, et pour la plupart, ils sont gratuits. Alors, franchement, profitez-en. On va vous en donner quelques-uns aujourd'hui. Oui, on suit l'actualité, pardi. Et Gavins, qui pour l'occasion parle latin, va vous faire découvrir. Alors, c'est Narbonne. Pourquoi? Parce que c'est la première capitale romaine de la Gaule. Est-ce qu'on sait tout d'ailleurs sur cette période ou pas, Gavin?
En tout cas, Guillaumus Mergitur, je me permets, c'est latin maintenant. On en sait beaucoup plus grâce à deux lieux. Il y a le Clos de la Lombarde à Narbonne, c'est dans le département de l'Aude, au cœur d'un triangle. Grosso modo, c'est entre Carcassonne, Perpignan et Montpellier. Ou plutôt, comme on disait autrefois, Narbo-Martius, la première capitale romaine en Gaule. C'est dans cette ville que les Romains faisaient étape quand ils étaient en route entre Marseille et l'Espagne. C'est là aussi que tous les trésors gourmands de la Gaule convergeaient. Alors, il y avait du fromage qui venait de Lozère, il y avait les vins de Béziers. C'était une gigantesque plateforme commerciale.
Oui,
et grâce à un autre lieu aussi dans la ville, en plein cœur de Narbonne, il y a le musée Narbovia. On va en apprendre encore beaucoup plus.
Mais est-ce qu'il y a de nombreux vestiges antiques à visiter, je dis
Oui, ça ne manque pas. Pour les journées du patrimoine, justement, il est possible d'aller visiter le fameux Clos de la Lombarde dont je viens de parler, et dans lequel vous allez découvrir les vestiges de plusieurs maisons de nobles. Il y a des thermes, on voit les traces, il y a les ateliers.
Les thermes dans les maisons?
À côté des maisons, c'était accolé aux maisons. On voit la trace au sol avec les pierres qui restent, les vestiges.
Fait pour ces gens-là,
exactement,
pour les nobles.
Fait pour les Romains.
Exclusivement.
Exactement, pour les Gallo-Romains.
Parce que les autres, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Romains, ils habitaient dans une sorte de HLM. C'était des immeubles.
Ils étaient très concentrés. Exactement. Il y a même les traces d'une basilique paléochrétienne. Tout ça sur place.
Ça veut dire.
C'était juste avant que les chrétiens arrivent. Tout ça à ciel ouvert. Et on peut même assister pour les journées du patrimoine au travail des archéologues sur le terrain. Mm-hmm. Profitez-en, c'est en ce moment.
Nous sommes en ligne avec le trésorier d'association des Amis du Clos de la Lombarde. Bonjour André Delpoux.
Bonjour.
Dites-moi, le site du Clos de la Lombarde, il a été mis à jour à quelle époque? C'est récent ou pas?
Disons qu'avant qu'on commence les fouilles, il y avait des vignes sur le terrain et l'État avait déjà une vue sur ce terrain-là, en particulier le ministère des Finances. Il voulait y faire l'hôtel des impôts là-dessus.
Non.
Et donc, oui, voilà. Et donc, comme la loi le prévoit, quand il y a des gros travaux comme ça, il y a eu des sondages archéologiques qui ont été faits.
Ouais.
On en a fait à 2 mètres de profondeur d'abord à la main et jusqu'à 6 mètres de profondeur à l'appel mécanique. Et tous ont été positifs. Et ah. ça se passait en 1973.
Ah, d'accord.
Donc, les archéologues de l'époque ont dit stop, on ne touche pas à ça. Hein.
Oui.
Du coup, le ministère des Finances a donné le terrain au ministère de la Culture et les fouilles ont commencé en 1974. Donc, ça fait 47 ans qu'on est ici.
Alors, aujourd'hui, le site, il ressemble à quoi ?
Ce sont des ruines qu'on est en train de restaurer, que l'on est en train de mettre en valeur. Donc, il y a d'abord une domus, c'est-à-dire une maison de ville qui fait à peu près 1000 mètres carrés que l'on a découvert en premier.
1000 mètres carrés ?
Oui, c'était une maison moyenne hein, pour l'époque, puisque quand Auguste a créé la Narbonnaise, justement, quand il a fait de Narbomarsus une capitale, il a fait venir des gens qui, eux, avaient l'habitude de vivre dans des maisons qui tournaient entre 4 et 6 000 mètres carrés. Quoi.
Mais il faut peut-être expliquer, là, André, qu'il y avait du personnel dans ces maisons, il n'y avait pas que le
pauvre. Oui. Il y a eu une étude de fait, il devait y vivre à peu près une trentaine de personnes là-dedans, esclaves compris, etc.
Mais tout cet endroit, vous l'avez laissé, j'allais dire, tel quel. Ou alors, vous avez essayé de mettre, un peu de végétation pour essayer de reproduire l'ambiance d'autrefois ?
Exactement. On a amené des colonnes antiques quand même. On a reconstitué des jardins. Alors, disons que c'était des jardins d'agrément. Hein. Ils ne s'embêtaient pas, c'était des gens de la haute société, ils ne s'embêtaient pas avec le potager. C'était des jardins pour s'extérioriser l'esprit, un peu, si vous voulez. Quoi. voilà. Donc, on a reconstitué des jardins et on s'est fié aux documentations de Plot, Sénèque, etc. de l'époque. Et surtout de Pompéi. En 79 après Jésus-Christ, quand il y a eu l'éruption du Vésuve, les nuées ardentes sont arrivées sur Pompéi et ont pétrifié tout ce qui était racines et graines de ce qu'ils mettaient dans les jardins.
Et
c'est comme ça qu'on a su ce qu'ils plantaient. Mais enfin, bon, c'était des plantes méditerranéennes, quoi.
Oui, bien sûr. Et donc, on déambule comme ça dans ces vestiges et en faisant travailler son imagination, on essaye de deviner comment ça pouvait se passer, la vie tous les jours. Bon, très bien. Merci beaucoup, André Delpousse. Merci.
Mais je vous en prie, c'était un grand plaisir de vous avoir.
À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Alors, Gavin, ce site se visite gratuitement là, pour les journées du patrimoine.
Exactement, on peut aller au Clos de la Lombarde, à Narbonne, tranquillement. Sinon, il est ouvert au public le samedi. Et en été, le mercredi, c'est gratuit également.
Alors, il y a des pièces originales qui figurent dans ce site du Clos de la Lombarde, mais elles ont été déplacées. On peut les voir où désormais ?
Eh bien, on reste aussi à Narbonne et on va aller voir un des plus beaux musées qui soit de l'Antiquité. C'est le musée Narbovia. On est en plein cœur de Narbonne.
Qu'est-ce qu'on peut y voir, là, alors, dans le deuxième lieu, en plein centre de Narbonne, ce
imaginez
musée.
Imaginez 15 000 objets archéologiques qui couvrent 6 siècles, entre le 2e siècle avant Jésus-Christ, à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et surtout, il y a une spectaculaire galerie de lapidaire. Alors, ça veut dire quoi ? Elle est composée d'un mur de pierre monumental de 70 mètres de long.
Lapidaire, c'est ça veut dire pierre, oui.
Sur 10 mètres de haut, et qui présente, alors, par roulement automatique, plus de 1700 blocs de fragments de pierre.
C'est-à-dire, ils tournent sur
eux-mêmes. Comme une
roue.
Exactement. Et c'est des décors architecturaux, des bas-reliefs que l'on peut apprécier. Et surtout, rien n'est figé, c'est en mouvement. C'est ça que j'ai bien aimé.
Il y a de quoi faire quand on va à Narbonne. Il faut y rester à la journée, quoi.
Voir un petit week-end, hein.
Un petit week-end. Et donc, on mange et on dort où ?
Eh ben, pour manger, je vous invite à aller voir un autre endroit. Alors, c'est dans l'esprit, c'est très romain. Ça s'appelle les Grands Buffets. C'est toujours à Narbonne. Et alors, c'est un buffet, comme son nom l'indique, mais qui ne fait pas dans la demi-mesure. On trouve, par exemple, le plus grand plateau de fromage du monde.
Oh.
Ouais. On trouve du foie gras, des homards, du saumon fumé, tout ça comme dans un bouquet romain. Et pour les plus gourmands, comptez aussi une cinquantaine de desserts. Tout ça à volonté pour 42,90 € par personne et c'est ouvert toute l'année.
Ouais, attendez,
ça s'appelle les
Grands
Buffets.
Vous dites du foie gras, du saumon, des et tout ça pour 43 €?
Exactement.
C'est en petite portion alors.
À volonté, vous avez le choix.
À volonté.
Le plus grand plateau de fromage du monde, imaginez.
D'accord.
William.
Bon, si vous voulez avoir des infos supplémentaires, vous verrez ça sur les réseaux sociaux, sur europe1.fr aussi. Dans un instant, on change de région. Comme on le fait régulièrement, car c'est toute la France qui est concernée par cette émission. Direction le Nord-Pas-de-Calais, tout à l'heure, vous allez découvrir ce qu'on appelle la cité des électriciens. Alors, autrement dit, c'est un exemple plutôt réussi, me semble-t-il, de l'architecture des bassins miniers et des corons inscrit, s'il vous plaît, à l'inventaire des monuments historiques. Ça s'est passé, cette inscription, après le départ des derniers habitants. La visite sera guidée et gratuite aujourd'hui et demain, et juste après. Alors juste après, Pierre Perret, qui évoquera au micro de Daniel Moreau ses souvenirs d'enfance passés où ? À Castelsarrasin. À tout à l'heure.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Dans un petit instant, nous allons retrouver Pierre Perret au micro de Daniel Moreau pour vous parler d'une région qu'il aime particulièrement, et ça depuis longtemps. Et ça sera dans le Tarn-et-Garonne, à Castelsarrasin, très précisément. Mais juste avant, comme vous le savez maintenant, dans Samedi en France, sur Europe 1, nous sillonnons le pays en long, en large, à la recherche de sites insolites ou méconnus, ou les deux à la fois. Et spécialement aujourd'hui, bien sûr, puisque ce sont les journées du patrimoine, ce sont nos journées à nous dans cette émission. Dans cette troisième étape, vous allez découvrir la richesse d'une architecture assez peu connue finalement, pour qui n'habite pas la région. Et avec Gavins Clemente-Ruiz, notre chasseur de sites, qui arrive tout droit du guide du Routard, on va poser nos valises dans le nord de la France. Où ça exactement ?
Eh ben, je vous emmène, William, à Bruay-la-Buissière. C'est dans le Pas-de-Calais, à 20 minutes au sud-ouest de Béthune, 30 minutes au nord-ouest de Lens, et nous allons découvrir la cité des électriciens.
Alors, la cité des électriciens, à quoi ça ressemble ? C'était destiné à qui ? Parce qu'avec un nom pareil, on dit, tiens, ils travaillaient tous à EDF. Et donc, pourquoi le nom électricien ?
Eh bien, la cité des électriciens, elle a été construite entre 1856 et 1861 par la Compagnie des Mines. Alors, à la base, c'était pour loger les familles des mineurs de Bruay.
Ah, bon. À la base, ça n'a rien à voir avec des électros, alors.
Exact. Non, presque. Vous allez voir. Chaque rue de la cité reprenait le nom d'un savant, Ampère, Edison, Faraday, qui ont tous, bien sûr, un lien avec l'électricité, d'où le surnom de cité des électriciens. Et c'est resté avec le temps.
Alors qu'ils n'ont jamais croisé dans la région. Mais c'était bien des mineurs. C'est là qu'ils vivaient. Est-ce qu'on peut dire que c'était une sorte de cité dortoir, quelque chose comme
ça ? Exactement. En quelque sorte, c'était ça. Une cité dortoir pour les mineurs de Bruay-la-Buissière.
Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette cité ?
Ben, en fait, il s'agit d'un des meilleurs exemples du patrimoine des bassins miniers et des corons. C'est l'un des derniers du genre, avec une architecture qui préfigure en quelque sorte les barres de HLM des années 60, agréable. Quand
Oui, mais moi les photos que j'ai sous les yeux, c'est beaucoup plus joli que ce dont on vient de parler. C'est pas du tout ça, parce que d'abord, il y a une très jolie couleur, et ensuite, il y a des tuiles, les fenêtres sont encadrées. Non, c'est assez joli, ça.
Ça a été tout refait, quand même, mon cher William.
Ah bon, c'est pour ça.
Oui, après le départ des derniers habitants, et ça a été en travaux pendant plus de 5 ans, quand même. Hein, oui. Et cette cité des électriciens a aussi été, on va dire, sous les feux de la rampe, avec plusieurs films qui se sont placés, qui se sont déroulés sur place, qui ont été tournés sur place, notamment Bienvenue chez les Ch'tis, qui a fait la renommée de la cité. Et tout le monde a voulu sa photo, et tout le monde est allé devant pour se prendre en photo devant la cité des électriciens.
Alors, je parais qu'avec la réouverture, là, le succès de la cité ne fait que commencer. On va vérifier ça. Nous sommes en ligne avec Samuel Bageux, qui est le responsable de la médiation culturelle de la cité des électriciens. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Alors pour ceux qui ne l'ont jamais vue, à quoi elle ressemble cette cité ? Il y a plusieurs bâtiments avec des appartements tous semblables ou pas ?
Alors la cité des électriciens représente en fait un modèle d'habitat minier bien particulier, donc le coron, on le disait tout à l'heure. Le coron, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est principalement un habitat horizontal, en fait, qui s'organise sur un plan orthogonal, avec en fait une composition en fait de maisons en fait collées les unes à côté des autres, donc qui forment donc des barres qu'on appelle des barreaux, et tous ces barreaux sont parallèles ou perpendiculaires les uns avec les autres. Donc c'est un petit quartier dans la ville qui permet d'abriter finalement les mineurs qui allaient travailler non loin de la cité.
Oui, mais on disait il y a un instant, Gabi, est-ce que ça pouvait éventuellement préfigurer ce que l'on a découvert ensuite dans les années 60. On appelait ça des barres d'ailleurs dans les années 60. Mais là, je trouve que ces immeubles sont assez jolis. Ils ont été bien retapés. Il y a un toit en tuiles, elles sont jolies comme tout. Les fenêtres sont encadrées de blanc. Ce sont des grands immeubles. C'est pas laid du tout. Au contraire, hein, franchement, de ce que je vois. Hein.
Alors c'est à la base un modèle ouvrier, puisque l'objectif pour la Compagnie des Mines était donc de loger les mineurs donc qui allaient travailler donc sur son territoire. Et effectivement, cette cité des électriciens a eu la chance en 2012 d'être accompagnée sur un grand projet de réhabilitation, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une cité un peu exceptionnelle, puisque on a essayé vraiment de repartir sur les matériaux d'origine et lui donner vraiment en fait finalement l'image qu'elle avait en 1861.
Ben c'est pas si mal que ça, parce que j'en ai vu des pires de cités ouvrières depuis celle-là. N'était pas si mal. Alors vous avez créé un centre d'interprétation pour comprendre le patrimoine minier. Pourquoi ? Parce que c'était pas clair, le patrimoine minier. Il fallait interpréter, il fallait traduire, il fallait des sous-titres.
Alors, effectivement, cette histoire, finalement, minière, elle n'est pas si tardive que ça, puisque, en fait, les mines dans le Nord-Pas-de-Calais ont fermé en 1990, donc il y a à peine 30 ans.
Oui.
Donc, cette histoire est encore toute fraîche, et pour certains habitants qui habitent encore sur ce territoire, il faut encore comprendre cette histoire, la digérer, et essayer de revenir sur un certain nombre d'éléments liés à la fois à la technicité du travail, mais également au volet social, et en particulier, la Cité des électriciens s'intéresse à l'organisation, notamment, des paysages, de l'urbanisme et de l'habitat minier sur 270 ans d'exploitation. Minière.
Mais c'était une cité où les mineurs vivaient, dormaient, mangeaient, mais finalement assez peu, quoi. Est-ce qu'il y avait une vie sociale? Est-ce qu'ils se retrouvaient? Est-ce qu'il y avait des parties communes où ils pouvaient se rencontrer? Probablement pas, non?
Alors, la vie sociale était, au contraire, elle était très très riche, puisque quand on parle de cité
l'inverse.
Des électriciens et de cité minière, c'est vraiment l'esprit de communauté qui ressort beaucoup, des témoignages. Parce que, alors certes, sur la dernière partie, chacun avait sa maison et chacun vivait effectivement chez soi, mais pendant un premier temps, en tout cas, ce qui prédominait dans les cités minières, c'était vraiment cet esprit de fraternité, de communauté, où on trouvait effectivement des équipements collectifs, comme le puits ou alors comme le four à pain, qui étaient vraiment destinés à l'ensemble de la cité.
Voilà, c'est ça que je voulais vous faire dire, Samuel. Parce qu'en fait, j'ai les photos sous les yeux, et donc je faisais le gars qui ne savait pas, mais je vois des des jardins potagers. Donc ça prouve bien, effectivement, qu'il y avait une activité collective chez ces mineurs et leur famille, bien sûr. Il paraît qu'on peut même dormir dans des gîtes, c'est vrai ça ?
Ah, c'est ça, c'est vraiment aussi le côté insolite de cette cité des électriciens, c'est qu'on propose au fait aux visiteurs de vivre l'expérience d'une nuitée en cité minière. Alors, on ne va pas retrouver les conditions de vie du 19e siècle, bien évidemment, mais on est reparti vraiment en fait finalement des volumes existants. On a ouvert quelques cloisons, ce qui permet effectivement de passer une ou plusieurs nuits dans la cité des électriciens, donc avec une capacité variable en fonction des gîtes. On a 5 gîtes sur le site et on est sur des prix tout à fait abordables aux alentours de 50€ la nuitée.
Ah bah c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a des ateliers pour enfants? Il me semble que d'avoir vu ça aussi, non?
Oui. Effectivement, on a un gros projet patrimonial développé au niveau de la Cité des électriciens. On a des visites guidées qui sont proposées, par exemple, tous les mercredis après-midi et tous les dimanches. Et également des ateliers pédagogiques sur des mêmes thématiques, généralement, les mercredis après-midi. Ce qui permet d'avoir une proposition, par exemple, le mercredi après-midi, un parent arrive avec son enfant et il travaille sur la même thématique, mais de manière différente.
D'accord. Ben voilà, c'est un vrai lieu de vie, comme on dit actuellement, cette Cité des électriciens. En tout cas, merci pour la visite. Samuel, bonne journée à vous.
Merci à vous et bonne journée. Au revoir.
Alors Gavitz, on peut manger sur place parce que ça c'est indispensable quand on fait nos visites hebdomadaires ici à Europe 1.
Tout à fait William, on peut manger au Carin Gourmand. Ça veut dire quoi Carin? C'est la remise, c'est la pantie comme on disait.
Ah, pour les outils.
Exactement. Ah, oui. Il y a des produits de saison bien entendu qui proviennent des producteurs locaux. Ils y tiennent à partir de 12€ le menu.
Bon, et qu'est-ce qu'il y a de particulier aujourd'hui et demain, journée du patrimoine?
Eh bien, vous allez pouvoir participer à une Ducasse.
Une Ducasse comme le chef, le grand chef?
Non, c'est pas pareil. Vous allez voir, c'est une grande fête traditionnelle, la Ducasse, du nord de la France. Il y a un carrousel pour que les enfants puissent faire du manège. On peut faire la pêche au canard. Il y a le chamboultou.
Ah,
je sais que vous aimez bien le chamboultou, William. Il y a la barbe à papa aussi.
Les têtes sur lesquelles on tape.
Oui, il faut bien choisir. Ouais. Il y a aussi des comédiens qui feront visiter les lieux. Il y a un toboggan géant aussi. Ça aussi, je sais que vous aimez. Ça fait plus de 7 mètres. Bref, la Cité des électriciens à Bruay-la-Bussière met le paquet pour les journées du patrimoine.
Si vous faites citedeselectricien.fr, vous allez retrouver d'autres informations sur les réseaux sociaux. Dans cette émission, tous les samedis, nous recevons une personnalité que vous connaissez bien et que vous aimez souvent, c'est le cas encore aujourd'hui, et qui a, comme vous, je suppose, a gardé dans son cœur et dans sa mémoire des images d'une région ou d'une ville ou d'un lieu qui ont marqué son enfance et qui peut être aussi la région où il habite encore. C'est arrivé. Daniel Moreau a rencontré Pierre Perret, qui a grandi à Castelsarrasin, et il en a même fait une chanson dont nous écouterons un extrait juste après.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Pierre Perret.
Salut la foule en délire.
Alors, vous avez grandi dans le Café du Pont, le café de vos parents à Castelsarrasin. Mais racontez-nous les promenades que vous faisiez avec votre grand-mère dans les environs de Castelsarrasin.
Ah ben, mémé, chaque fois qu'elle venait aider au café, mes parents bien sûr, parce que quand il y avait beaucoup de monde, elle servait, ils couraient tous partout. Mais les jours où elle se reposait un peu, et surtout si c'était le jeudi où j'allais pas à l'école, elle m'amenait avec elle, on partait, c'était l'aventure. Alors là, on partait cueillir des herbes sauvages parce qu'elle les connaissait toutes et elle m'apprenait le nom de toutes les herbes sauvages, de la menthe sauvage, l'encolie, les pissenlits, etc., etc. Et puis on allait aux escargots, on allait faire mille choses jusqu'au bord de la Garonne où j'allais même finir parfois à pêcher une friture de goujon et on rentrait à la maison tout content d'amener ça à maman qui nous faisait ça en friture à la poêle et on se régalait, quoi, voilà.
Alors vous êtes vraiment un enfant chéri de Castelsarrasin puisqu'il y a une école qui porte votre nom et il y a aussi le parcours Pierre Perret. Si les auditeurs veulent venir, ils vont voir suivre le parcours, les traces de votre enfance. Vous pouvez nous expliquer ?
Alors ils m'ont fait l'honneur de ça à Castelsarrasin et je les en remercie encore une fois. Jean-Philippe Béziers, le maire, a eu l'idée de ponctuer Castelsarrasin en tous les lieux qui ont été chers à mon enfance, où j'allais sur le boulevard où il n'y avait que des marronniers à l'époque, j'allais cueillir des marrons pour avoir une pièce de la chevrière à côté qui m'achetait les marrons pour les donner à manger à ses chèvres. Et en échange, elle me donnait deux ou trois piécettes et des petits fromages blancs de ses chèvres. Et c'était un enchantement pour moi, c'était une merveille. Et alors avec Mémé, on allait partout. Elle m'amenait partout. Elle m'a même fait nager pour la première fois dans le canal, pas loin du Café du Pont, là, puisque c'était à 200 mètres. Et je me souviens, j'étais attaché à une grande corde autour de la taille, sous les aisselles. Et pour pas que je me noie, quand elle voyait que je buvais la tasse, elle tirait sur la corde pour m'attirer vers le bord du canal. C'était trop drôle. Et puis moi, je voulais absolument nager. Je voulais pas rester près d'un lieu comme ça sans apprendre à nager. Et c'est quasiment auprès d'elle que j'ai appris tout ça, quoi. Voilà.
Alors c'est tous ces souvenirs qu'on peut retrouver donc dans ce parcours Pierre Perret à Castelsarrasin. Merci Pierre. Et on vous retrouve en tournée dans toute la France pour votre concert. Merci beaucoup.
Ah, ça, vous êtes menacé de me voir un peu partout parce que après Pleyel que je vais faire là, les 30 et 31 octobre, je pars dans toute la France, en Belgique, en Suisse, partout. Et ma foi, je passerai sûrement près de Castelsarrasin, ça c'est sûr.
Et très bien, je pense que les gens seront fidèles et seront là. Merci Pierre, au revoir.
J'espère bien. À bientôt tous. Salut.
Salut Monsieur Pierre. Ils peuvent faire des tournées, Pierre, il est jeune. Il passera à Castelsarrasin. Et donc vous avez compris qu'il y a dans cette région et dans cette ville en particulier un parcours qui porte son nom, s'il vous plaît. Ce n'est pas permis à tout le monde. Merci Daniel Moreau. À la semaine prochaine, on va rester encore un petit moment à Castelsarrasin avec la chanson que Pierre a consacrée à sa ville. Et ça s'appelle, devinez comment, ça s'appelle « Je suis de Castelsarrasin ».
Je suis de Castelsarrasin et du patois je m'en souviens. Les paysans disaient le jeudi « Beau almercata sarrasi » et l'été quand le soleil donne. J'allais me baigner à Garonne. Mémé disait Mundi ou Pichu, tu bas niga, fais attention. Moi sur mon vélo fou de joie, j'allais voir la petite Emma. Ses petits seins en ton pression, qui me faisaient grosse impression. Ses êtres au cœur si bien bâtis, qui m'ont fait regarder la vie, qu'il tirait à U et à Dia, s'appelle Maurice et Claudia.
Voilà, ça s'appelle « Je suis de Castelsarrasin ». Y a pas mal de chanteurs comme ça qui ont écrit des odes à leur ville d'enfance. Dans un instant, on vous proposera, comme chaque semaine, dans Samedi en France sur Europe 1, une expérience en plein air. Alors là, la balade va vous emmener jusqu'à l'île de Bas. Avec Gavin Slematerius, nous avons choisi de vous parler d'un jardin extraordinaire. Mais pourquoi l'est-il extraordinaire ? Réponse après ceci.
Europe 1, 15h-16h, Samedi en France. William Lémergie.
Non, c'est pas ça.
J'ai
l'instrument pour, mais
à la fin de la saison, on y arrivera. On y arrivera.
Dernière étape aujourd'hui de ce samedi en France, une balade en plein air, comme on vous en propose chaque semaine dans cette émission. Cette fois-ci, avec Gavin Clément-Terruiz, on a choisi l'île de Bas. D'abord, comment on s'y rend à l'île de Bas?
Tout simplement en bateau, William. On prend le bateau à Roscoff et on file sur l'île, juste en face. On est dans la région du Léon. C'est dans le Finistère Nord, en Bretagne. Et là, vous avez 15 minutes de traversée pour arriver sur un gros caillou de 3,5 km de long, 1,5 km de large. Et vous allez découvrir ce que tous les amateurs de jardins originaux connaissent. C'est une espèce d'oasis exotique. On se donne le nom comme un petit secret, c'est le jardin Georges de la Selle.
Exotique, vous avez dit. Vous êtes sûr qu'il y a des plantes exotiques qui poussent en Bretagne Nord?
J'ai bien dit exotique en Bretagne, William. C'est vrai que les deux noms sont assez étranges. D'habitude, on n'y croit pas. Mais là, c'est la réalité. C'est là tout le charme et l'intérêt de cet endroit qui est hors du commun, où rien d'habituel ne pousse. Imaginez, on trouve des palmiers, des cactus, des plantes asiatiques. Il y en a d'autres qui viennent même d'Australie. Tout pousse, ou presque. Et tout ça, c'est grâce au vent d'ouest et au Gulf Stream, qui est ce courant d'eau chaude qui remonte l'Atlantique en provenance du Golfe du Mexique. Et l'ensemble est très bien mis en scène, avec différentes ambiances. Et évidemment, il y a toujours la mer entre les fonds. C'est vraiment très beau.
En gros, là, si je résume, vous nous invitez à un tour du monde, un végétal, sur un bout de caillou au large de la Bretagne, c'est ça?
Exactement.
Et pas très loin, quoi.
C'est ça, on est à quelques heures. Vous pouvez, si vous êtes juste à côté, allez-y.
Bon, alors deux mots sur le monsieur Georges de la Selle.
Eh bien, c'était un assureur, monsieur de la Selle, à la fin du 19e siècle. Il est tombé amoureux de ce terrain qui avait tout d'une dune, quand même, au départ. Il a commencé à creuser pour protéger ses futures plantations du vent et de la mer. C'est là qu'il est tombé sur des ruines d'une nécropole datant de l'âge du bronze. Eh ouais.
Ah bon ?
Eh oui, et c'est comme ça, ensuite, il a commencé à bâtir son très beau jardin.
Bon, alors, avant d'être un jardin, c'était donc une nécropole. Ça mérite une explication. Alors, ça tombe bien, nous avons en ligne Benjamin Gouès, directeur du jardin Georges de la Selle sur l'île de Bas. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui reste maintenant de cette nécropole et à quoi sert-elle encore aujourd'hui ou...
Ah ben, la nécropole, il reste aujourd'hui environ 12 tombes qui sont visibles dans le jardin.
Oui.
Et la nécropole aujourd'hui, elle est plutôt mise en scène.
C'est-à-dire ?
Ce sont des dolmens en fait qui reposent sur une pelouse, un peu à l'image des cimetières anglais où les tombes sont entourées de pelouses. Donc ça rentre dans le cadre paysager du jardin.
Est-ce que régulièrement vous faites venir des plantes de pays lointains, lesquelles je ne sais pas, et vous les installez sur l'île? Et est-ce que ça pousse à tous les coups?
Alors oui, on continue l'acclimatation de plantes. Ensuite, il faut savoir que la législation du voyage des plantes est très réglementée.
C'est-à-dire et on n'a pas le droit d'importer n'importe quelle plante.
C'est compliqué, il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas...
Ils ne veulent pas lâcher leurs plants.
Qui ne veulent pas lâcher leurs trésors. Mais oui, on se débrouille toujours. Il y a les conservatoires botaniques qui sont là, qui sont légitimes pour ça, et qui nous prêtent des graines.
Oui, vous êtes en relation avec ces gens-là, quoi.
Oui, voilà. Et après, évidemment, il y a des échecs. c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais après, maintenant, on sait très bien quelle plante, quel type de plante, de quel pays... peut pousser au jardin. Donc,
oui, mais est-ce que vous avez des a priori, c'est-à-dire vous dire, je sais qu'il existe dans tel pays, là-bas en Asie, telle plante, j'ai les photos, j'en ai déjà vu, il y a des graines, mais voilà. Est-ce que, un, ça va pousser en Bretagne Nord, et deux, est-ce qu'ils vont bien vouloir nous les donner, nous les vendre?
C'est compliqué. Forcément, il y a beaucoup de plantes comme ça qui nous donnent envie, qui sont sur des îles lointaines. Alors, pas trop en Asie, nous c'est plutôt l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il y a des plantes qui sont extrêmement protégées.
Alors, je voudrais rassurer tous ceux qui vont aller visiter pendant ce week-end l'île de Bas ou les semaines suivantes. Vous avez pas mal d'espèces déjà. Vous en avez recensé combien qui sont là, qui sont des espèces rares ou pas d'ailleurs?
On a environ 1700 espèces qui viennent principalement de l'hémisphère sud ou des îles Canaries et de Madère. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi
là,
prendre plein les yeux.
Parce que là j'ai des photos que Gavin qui m'intéresse m'a donné, mais c'est extrêmement, je dirais, luxuriant. On peut se promener là sans risque de les piétiner, il y a des parcours.
C'est comme partout. Après, il y a des chemins, et puis il y a des indications qui sont données aux gens pour pas marcher dans les massifs. Mmh. Après, c'est la volonté de chacun de respecter
bien sûr,
le travail
de respecter. Des autres. Mais ça couvre combien de centaines de mètres carrés, finalement? Je vous demande ça parce que c'est pour savoir combien on peut tenir quand on vient nombreux sur cet espace.
Bon, il n'y a pas de jauge. Après, le jardin, il fait 2,5 hectares. Le plus gros qu'on ait fait, c'est des journées à 1000 personnes.
Quand même!
Sur 7 heures d'ouverture, ça se passe relativement bien quand même.
Et quand on visite ce jardin, à votre avis, il nous faut combien de temps pour savourer l'ensemble?
Il faut au minimum une heure.
Minimum, d'accord. Et une fois qu'on est, on peut boire un coup ou pas?
Alors, il y a à côté, il y a des bars pour boire un coup qui sont à l'extérieur du jardin, mais pas très loin.
Ouais.
Donc, avec des vues incroyables sur la mer. Donc, voilà.
Bien sûr. Bon, d'accord. Eh ben, merci pour ce détail, Benjamin Gouès. On tâchera de vous envoyer quelques amis. Gavitch, une fois qu'on est là-bas, qu'on a visité le jardin, donc non seulement on peut boire un coup, mais on peut rester dormir aussi.
Bah, si on boit un peu trop de coups, on peut dormir en effet. On va aller dormir dans la chambre d'Otivazadou.
Mais c'est sur l'île.
C'est dans le bourg de l'île, très précisément. Vous pourrez aller dans cette maison de mes pères, comme on le dit, hein, c'est le nom original. Il y a 4 chambres, impeccables, pimpantes, avec un beau parquet ciré. 75 € pour 2 personnes. Pas mal.
Ça va, c'est pas trop
ça
cher.
Ça va. Donc, pour un petit week-end, c'est
agréable. Encore une fois, vous pourrez feuilleter les réseaux sociaux, si j'ose dire, pour trouver des informations supplémentaires ou sur europe1.fr. Gavitch, pour terminer, on récapitule rapidement, pour ceux qui ne sont pas arrivés au début du film, rapidement les 4 sites qui sont présentés.
Alors, nous avons visité le musée de la magie à Blois. Nous avons fait un saut dans l'Antiquité romaine au Clos de la Lombarde, un site archéologique à Narbonne, et au musée Narbovia, dans la même ville. Nous avons visité la cité des électriciens à Bruay-la-Buissière, dans le Pas-de-Calais, un modèle d'architecture des corons. Et enfin, nous venons de faire une balade en Bretagne dans le jardin exceptionnel et exotique de l'île de Bas.
Alors, pour être complet dans cette émission consacrée aux sites de France insolites, originaux, etc., on vous cite parfois aussi des livres qui nous ont marqués, qui parlent de la France. En voici un autre.
Bah oui, je me suis dit que c'était idéal pour ce jour des journées du patrimoine.
Ouais.
Ça s'appelle « J'habite un monument historique ». C'est chez Buchet-Chastel et l'auteur, c'est Olivier Calon. Et il va à la rencontre des habitants de monuments historiques en France, prêts à tout sacrifier pour satisfaire leur passion. C'est assez cocasse, c'est souvent drôle, on se retrouve dans des endroits vraiment très originaux. C'est aussi l'occasion de découvrir que le patrimoine français recèle de monuments, de bâtisses vraiment bien vivants à visiter et qu'aujourd'hui et demain, ce sont les journées du patrimoine. Il faut en profiter. Sortez, visitez, c'est gratuit.
Bien sûr, bien sûr. Et dans ce livre-là, il y a des histoires humaines tout à fait intéressantes. Merci de votre présence, Madame, Monsieur. Merci à Maryse Jacquet, Christophe Pierrot, Daniel Moreau, Gavitch Clément-Terruis, bien sûr, notre guide. Dans un instant, Stéphane Bern et Mathieu Noël pour Historiquement en Vaud. Bon après-midi. La semaine prochaine, dans Samedi en France, 4 autres sites qui méritent votre attention. À samedi prochain, 15h. Bon après-midi sur Europe 1.